débattre. Ne mélangeons pas les choses.
En plateau avec nous, Nathalie Arthaud, bienvenue. Candidate lutte ouvrière à cette présidentielle. Pourquoi vous ne captez pas davantage l'attention des électeurs en cette période de crise ?
Bah écoutez, là, moi, je ne veux pas faire de commentaires. Je crois que ce n'est pas le moment de l'analyse. Donc, je vais continuer de défendre ma politique, de dire que le chômage, c'est le fléau pour les classes populaires. Pour ceux, bien sûr, qui sont tombés dans le chômage, mais aussi pour ceux qui sont encore au travail. Mmh. Parce que c'est le chantage permanent, hein, pour nous en faire faire toujours plus au boulot, hein, ce chômage. Puis voilà, c'est un fléau dans les quartiers populaires parce que le chômage, il est à la base de l'insécurité, du chacun pour soi, des incivilités. Donc effectivement, c'est un fléau à combattre. Et moi, je pense qu'il y a une politique pour le combattre.
Les quartiers populaires, les chômeurs se retrouvent dans votre discours?
Ben, vous savez, quand nous disons qu'il faut interdire les licenciements, que la première des choses, ça serait qu'on ferme le robinet, hein, qu'on empêche les fabricants de chômeurs de rajouter des chômeurs aux millions de chômeurs qui existent déjà. Quand nous disons qu'il faudrait embaucher dans les services publics. Écoutez, embaucher dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les transports, on voit qu'il manque cruellement de bras. Donc quand nous disons tout cela, je peux vous dire que c'est tout à fait bien compris, que c'est bien reçu et que nous sommes approuvés. Et en même temps, nous ne cachons pas, nous, qu'obtenir ça, ça sera une lutte. Il va falloir se mobiliser, ça sera un rapport de force qu'il faut imposer. Là, peut-être qu'effectivement, les travailleurs s'en sentent moins. Mais ben écoutez, on anticipe peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire.
Arrêtons-nous sur votre proposition d'interdire les licenciements. Est-ce que votre proposition est valable, de votre point de vue, dans les grandes comme dans les petites entreprises? Ou est-ce que vous faites une distinction?
Non. Interdiction des licenciements dans toutes les entreprises. Voilà. Alors, je sais bien qu'à chaque fois, on m'oppose... Les petites entreprises, à chaque fois. Hein.
Les petites entreprises ou celles qui sont en difficulté.
Je me dis que vraiment, tous les journalistes sont très très inquiets, hein, de la santé des petites entreprises.
Il y a des entreprises plus importantes qui sont en difficulté.
On interdit les licenciements parce que d'abord, c'est le fait de grands groupes. On a vu la marche des ArcelorMittal dans l'actualité. C'est le roi de l'acier, c'est le numéro un de l'acier. Vous croyez pas qu'il pourrait maintenir la scierie ouverte de Florange? Bien sûr que si. Il pourrait même réouvrir celle de Gandrange. Ce serait une goutte d'eau dans ces milliards de profits, hein, d'ArcelorMittal. Donc voilà ce qu'il faut lui imposer, qu'il soit interdit de licencier et qu'il soit obligé à répartir l'activité entre toutes les aciéries. Et ça, c'est vrai pour Peugeot Citroën, c'est vrai pour Unilever qui veut fermer l'usine de Fralib, c'est vrai pour le groupe Lohmann Rocher qui a mis sur le carreau 50 ouvrières près de Troyes, hein, de l'usine Sodi Medical. Donc vous voyez, ces grands groupes-là, il faut leur interdire. Alors après, vous allez me dire...
Moi, ma question, c'était, oui, mais, est-ce qu'il faut faire une distinction entre les petites et les grandes? Vous me prenez des exemples, c'est à chaque fois des grandes entreprises.
Qu'on commence déjà par elles, hein, parce que elles le peuvent. Alors ensuite, les petites entreprises. Ben écoutez, moi, je suis pour qu'on regarde les difficultés des petites entreprises et d'où viennent-elles, ces difficultés, hein, parce que si vous défendez les petites entreprises, il faut vous poser ces questions-là. Elles viennent d'où? Eh bien, moi, je dis que ces difficultés, elles viennent du fait qu'elles sont sous-traitantes de grands groupes, qu'elles sont écrasées, qu'on écrase leurs marges bénéficiaires, on leur impose des contrats léonins, hein, et ils acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Il y a plus puissant qu'eux qui les dominent. Il y a les banquiers aussi qui leur font les poches, qui ne prêtent pas quand il faut, qui leur prêtent à des taux d'intérêt qui sont exorbitants. Donc voilà l'origine de ces difficultés. Alors nous ne sommes pas pour que ce soit les travailleurs qui payent ces difficultés-là. Nous sommes pour que la vie des travailleurs, leur emploi et leur salaire soient sauvegardés et qu'on aille chercher l'argent où il est, y compris dans les donneurs d'ordre, ces grands groupes, y compris dans les banques, mais qu'on préserve les emplois. Voilà, pour nous, c'est une évidence. Écoutez, c'est quand même dingue de se dire on met les gens sur le carreau, qui se débrouillent? Comment vont-ils vivre?
Alors, et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ne sont pas sur le marché du travail, mais qui n'ont pas de salaire à la fin du mois, qu'est-ce qu'on...
Eh bien, moi, je pense qu'il faut embaucher.
Mais ça se décrète pas, c'est pas en...
Il faut utiliser l'argent de l'État pour embaucher. Et je pense même qu'on pourrait mettre en place un nouveau service public. Service public de construction de logements, vous voyez, ça pourrait être quelque chose de très très utile à faire. Que l'État prenne en charge directement la construction des logements sociaux qui manquent dans toutes les villes du pays, hein, qui mette en place un service public de construction en embauchant directement des maçons, des peintres, des ingénieurs, des plombiers, des architectes directement, qu'ils se servent de l'argent public,
des caisses publiques. Mais quand je suis comptable, la construction de nouveaux logements, ça ne me concerne pas forcément directement.
quand vous êtes
comptable, si par exemple, parce que là vous prenez évidemment des corps de métier qui sont directement.
Oui. Non mais d'accord, mais là ça en créerait des emplois, ça créerait des emplois et même y compris de comptables. Vous savez, il faut des comptables y compris pour gérer les logements sociaux. Ça en créerait des emplois énormément, mais on pourrait en créer aussi dans les transports, on pourrait en créer aussi dans les hôpitaux, vous voyez, on pourrait en créer dans l'éducation nationale.
On a les moyens de faire tout ça.
Oui, on a les moyens. Bah, vous savez, on trouve de quoi verser. Des milliards aux marchands d'armes. Le programme du Rafale aura coûté aux contribuables français 40 milliards. Vous voyez, cet argent-là,
on le trouve. La dette de la France, c'est 1 800 milliards d'euros.
Eh bien, que ceux qui l'ont faite la payent, cette dette. Voilà, qu'ils remboursent. Hein, que ceux au profit de qui elle a été faite remboursent. Voilà, les grands industriels, les banquiers, qu'ils remboursent cette dette. Hein. Il y a eu... Écoutez, on nous explique, et ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de pression permanente hein, à cette dette. On nous dit, voilà, les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent, c'est la crise. Ah, et on est bien obligé d'accepter des sacrifices, hein, d'avoir moins d'infirmières, moins d'aides-soignantes, moins de profs. Tant pis s'il n'y a pas de remplaçants pendant quelques semaines. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ben, nous disons non. Non, c'est pas vrai. Hein, les milliards, on les trouve pour les banquiers. En 24 heures, ils ont été débloqués. Et ça a été des centaines de milliards. Et on les a trouvés pour aider les industriels de l'automobile. Alors, ces milliards, eh bien, nous disons qu'ils seraient mieux utilisés à des embauches, voilà, dans les services publics.
Sur les salaires, on les relève tous.
Oui, on les relève tous.
C'est ce qu'on peut lire dans votre programme.
Eh bien oui, écoutez, ils ont tous été diminués du fait de l'explosion des prix. Hein, voilà, qui a vu son salaire, sa pension de retraite ou ses allocations augmenter de 4,5%? C'est le tarif auquel a augmenté le gaz au 1er janvier. Qui? Personne, personne. Et il y a eu l'augmentation des loyers, évidemment, des loyers, de l'électricité, des carburants, évidemment, et puis aussi des mutuelles. Hein. Donc, on a vu tous les prix augmenter, sauf les salaires. Donc, oui, il faut un rattrapage sur les salaires,
une augmentation générale des salaires.
Une augmentation générale, oui, générale, uniforme des salaires. Et nous pensons qu'il faut monter le SMIC à 1700 euros net. À 1700 euros net, parce que je ne sais pas combien il vous faut, vous, pour vivre, pour boucler les fins de mois. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'avec moins de 1700 euros, eh bien, on est dans la misère. Voilà. On est dans la misère et c'est une vie indigne. Une vie qui n'est pas digne du siècle dans lequel nous vivons. Donc oui, SMIC à 1700 euros et une augmentation générale des salaires qui, encore une fois, est un rattrapage. Un rattrapage pour rattraper les prix.
Ouais, mais là encore, pardon de me répéter, mais quand on est une entreprise en difficulté, comment on fait pour et son carnet de commandes n'est pas forcément rempli comme on le souhaiterait, comment on fait pour relever les salaires?
Ah bah déjà, ça veut dire que vous convenez que pour les grandes entreprises qui sont riches à milliards, c'est possible. Eh bien, c'est déjà pas mal parce que vous voyez, c'est quand même 30% des salariés, les grandes entreprises, 30%. Et je peux vous dire que les travailleurs de Carrefour...
C'est pas dans les grandes entreprises qu'on trouve le plus de smicards, entre guillemets.
Vous croyez qu'il n'y a pas des smicards à Peugeot Citroën, qu'il n'y en a pas à Renault?
Je dis pas qu'il n'y en a pas,
il y en a énormément. Vous savez, des travailleurs qui sont embauchés à Peugeot Citroën en 3-8 depuis 10 ou 15 ans, ils sont pas à 1400 euros hein, par mois. Et c'est pareil pour Carrefour, pour Auchan, pour Ikea, c'est pareil pour Renault, c'est pareil pour même des banques. Vous savez combien touche une personne au guichet des banques, à la poste? Hein, mais c'est des salaires de misère, c'est même pas 1700 euros net, voyez? Alors moi, je dis que oui, tous ces grands groupes, ils ont l'argent. Et puis on le voit, hein, entre nous, quand ils trouvent à payer 200 ou 300 fois le salaire hein, de leur PDG ou qu'ils trouvent des dizaines de millions à verser aux actionnaires, ils ont l'argent.
Vous ne m'avez pas répondu sur les petites entreprises.
Eh bien, on l'applique déjà sur les grosses, voilà. Et sur les petites entreprises, eh bien, je dis que c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelque chose qui cloche dans cette société. Hein. C'est que si les entreprises ne peuvent pas payer les salariés au niveau où ça leur permet de vivre, c'est-à-dire d'avoir un logement, d'avoir une voiture, parce que pour aller au travail, il faut une voiture la plupart du temps. Hein. S'ils n'ont pas de quoi se soigner, c'est une société qui ne peut pas marcher, voilà, qui est condamnée. Alors moi, je sais bien qu'il y a des entreprises qui sont en difficulté, mais moi, je suis la première à le dire. Cette économie capitaliste, c'est une jungle. Voilà, une jungle où les gros mangent les petits. Une jungle où, effectivement, les plus petits sont toujours, toujours sous les difficultés, des difficultés immenses. Alors, ça ne peut pas marcher. Mais c'est pas parce que il y a des éclopés dans ce système. Hein, des entreprises qui sont écrasées, qu'il faut que les travailleurs se laissent faire. Voilà. Donc, les travailleurs, il faut qu'ils revendiquent leur dû. Hein, et leur dû, ben, c'est d'accéder à des conditions d'existence dignes.
Ouais. Petite parenthèse, que vous inspire des carrières comme celle de Steve Jobs et de Bill Gates? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense que leur fortune, elle émane surtout des dizaines de milliers, des centaines de milliers de petites mains qui construisent les iPhones en Chine, hein, et qui sont payés à coups de lance-pierre et qui même parfois ils laissent leur santé hein, sur ces chaînes-là de montage, voilà.
Vous voyez pas les milliers d'emplois qui ont été créés Mais que ce soit dans les
vous savez, moi,
le siège principal ou les
ce que je sais, c'est que ce sont les emplois
différentes capitales.
Ce que je sais, c'est que ce sont les emplois, ce sont les salariés qui créent la richesse, voilà. Et que s'il y a des riches, c'est parce qu'il y a des salariés qui ont rempli leur coffre-fort, qui ont fait leur fortune. Donc voilà, Bill Gates.
Vous voyez juste leur fortune personnelle, en fait.
Il a eu quelques idées comme ça, mais quelques idées comme ça, génial, mais vous savez.
Vous reconnaissez quand même qu'il y a eu des avancées.
Il a surtout été très très génial en termes de commerce. Voilà, ça a été un très très bon commerçant, un très très bon vendeur.
C'est mal ça.
Et un très bon, non, c'est pas mal, mais un très bon exploiteur aussi. Voilà, quelqu'un qui effectivement a capté à son profit, le travail. Encore, je vous le dis, hein. Vous savez, il y a toujours des petites mains quelque part, toujours. Hein, il suffit pas d'avoir des idées géniales. Hein,
vous reconnaissez quand même que ces idées géniales ont abouti à la création de milliers de postes un peu partout dans le monde.
Je pense que même ces idées géniales, voyez, c'est un fruit collectif. Je pense que même d'avoir des idées géniales pour quelqu'un, pour un inventeur, eh bien forcément, elles sont quand même basées sur les idées, le niveau d'avancée des sciences, des technologies, les découvertes qu'ils se font, que tout ça, en réalité, même si les uns ou les autres avancent plutôt un certain nombre de solutions ou ont des idées plus vite que les autres, tout ça émerge quand même d'une sorte de mise en commun, de réflexion collective dans la société. Donc voilà, moi, je suis convaincue que le sort de la société ne dépend pas de quelques-uns, qu'en réalité, elle tourne grâce au travail de millions de travailleurs, voilà, et que c'est collectivement qu'on devrait pouvoir la diriger, cette
société.
Alors,
on va laisser Bill Gates de côté. La fiscalité, les impôts, on les augmente,
Moi, je suis pour augmenter les impôts des riches, pas de problème, oui.
Uniquement des riches, et on est riche à partir de quel niveau de revenu?
Et je vais même préciser les choses. Je suis pour augmenter les impôts de ceux qui touchent un revenu sur le capital, c'est-à-dire que ceux qui touchent un revenu sur le fruit, justement, du travail des autres, de l'exploitation, voilà. Je pense que on pourrait, oui, augmenter beaucoup ces impôts-là.
Et l'impôt sur le revenu.
Les augmenter de sorte que les salariés, eux, n'aient plus à payer d'impôts. Voilà. Les augmenter au niveau qui permettent aux salariés de ne pas avoir à payer d'impôts, parce que eux,
mais en l'occurrence, être salarié et gagner 30 000 euros par mois,
que leur salaire. Ouais. Oui.
Dans les grandes entreprises.
Oui, c'est vrai, mais
vous citez régulièrement.
On est encore très très loin de Madame Bettencourt qui se fait 360 millions par an. Ouais. Vous voyez, on est encore très très loin de ça. Et moi, je pense que c'est sur ces fortunes-là qu'il faut payer des impôts, oui.
Ouais. La TVA, on la supprime totalement.
J'ai absolument rien contre le fait de laisser la TVA sur les yachts, sur les sacs Vuitton, les tableaux de maître, sur toutes ces dépenses de luxe.
Ça va pas concerner grand monde.
Surtout les caprices de riches. Oui, mais vous voyez, je suis presque même... je suis pour augmenter la TVA, qu'on la mette à 50%, 100%, je pense que ça ne poserait aucun problème.
Mais pour les produits de la consommation courante, parce qu'avant de s'acheter un yacht, on achète le pain.
On supprime. Pour la consommation courante, on supprime. Et je dois vous dire que ça me choque. Ça me choque qu'effectivement, un smicard, un chômeur... paye le même impôt quand il achète sa baguette de pain qu'un millionnaire ou qu'un milliardaire. Voilà, ça me choque. Je pense que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qui soit, que nous payons tous, tous, au même tarif, justement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Et en plus, c'est l'impôt qui remplit la moitié des caisses de l'État. Donc oui, c'est l'impôt vraiment, vraiment injuste qu'il faudrait supprimer.
Il nous reste 10 secondes. Que serait un bon score pour Lutte ouvrière le 22 avril au soir?
C'est que plusieurs centaines de milliers d'électeurs, voilà, aient eu envie de dire avec nous que oui, il faut lever ce drapeau des luttes, qu'il faut être conscient que les travailleurs auront à se défendre, que justement, ils doivent mettre sur la table leurs revendications. Un emploi, un salaire, mais que, voilà, ça va dépendre effectivement des luttes qu'on sera capable de mener pour les obtenir. Des mobilisations.
Je vous remercie, Nathalie Arthaud. Dans un instant, Merci. Le journal sur LCI.